Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI pour évoquer la soirée test pour les Marseillais. Sur la pelouse de Tottenham, les hommes d'Igor Tudor ont envie de prouver qu'ils sont de dignes dauphins du PSG et pas seulement en championnat et qu'ils vont éviter le ridicule européen des saisons passées. Thomas de Saint-Léger sera en direct de London. Dit Tur. The door, la porte pour Thomas Tuchel. L'entraîneur des Blues, sacré champion d'Europe en mai 2021, a été viré ce matin par les nouveaux dirigeants américains de Chelsea. Une sanction de l'homme ou des résultats de son équipe ou les deux? Paris gagnant pour Christophe Galtier. Son équipe a dominé la Juventus de Turin hier au Parc des Princes, sans cependant s'épargner quelques frayeurs en fin de partie et aussi de nouveaux doutes autour de son gardien numéro 1. Et de tout cela, nous en parlerons notamment avec quelqu'un qui était en tribune VIP, bien sûr. Bon, bonjour Carlos Bianchi.
Bonjour à tous. Un plaisir d'être avec vous.
Vous étiez au Parc des Princes hier soir, n'est-ce pas?
C'est ça.
À vos côtés, David Lortolari. Bonjour David.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Tout va bien?
Ça dépend des clubs.
Ça dépend des clubs, ça dépend des personnes aussi, n'est-ce pas? Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Je pense que vous allez avoir des choses à échanger tous les deux aujourd'hui dans cette émission. Je ne sais pas,
c'est
comme
possible,
ça.
Hein, c'est possible. Hein,
si vous avez bien écouté les titres.
La journée était mouvementée.
Hein, la journée est presque la matinée déjà.
Ouais.
David Finzel et Pierre Guéraman aidés à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Dimitri Payet, au même endroit, même s'il était bien parti.
Enfin, cette série de 13 défaites consécutives qui s'interrompt ce soir. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Ouf.
Le ouf d'Éric Mamrut. Ils seront 1500 supporters ce soir dans le Tottenham Hotspur Stadium du nord de Londres pour encourager leur équipe à nouveau présente donc en Ligue des Champions et leur souhaiter le meilleur comme cette dernière victoire européenne. C'était un 2-1 à Athènes face à l'Olympiakos où était donc Éric Mamrut. C'était il y a 2 ans, car pour les Marseillais, la Ligue des Champions représente tellement, on le sait, on le dit dans cette émission, l'OM est le seul club français à avoir remporté cette fameuse coupe. Mais ça commence à dater. Et cette compétition est parfois un cauchemar pour ses supporters. Les récentes expériences sont de douloureux souvenirs. Alors, en 10 ans, il y a eu 2 campagnes, 2013-2014, 0 points marqués. Et puis, un record de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions. C'est Marseille qui détient malheureusement ce triste record. Une seule victoire cette année-là, c'était en 2020-2021 avec l'entraîneur Villas-Boas et c'était donc cette victoire à l'Olympiakos. Ils ont, en tout cas ces derniers temps, récolté 3 points sur 36 possibles, comme quoi ce n'est pas très glorieux. Aujourd'hui, en plus c'est l'anniversaire de Eric Dimeco qui est quand même une gloire marseillaise, ça va peut-être leur porter chance aux Marseillais. Eh bien l'OM joue contre Tottenham à Londres donc, et même s'il n'y a que 4 rescapés de cette dernière aventure européenne malheureuse, l'équipe n'a qu'un but, bien commencer la compétition, et c'est ce qu'a expliqué hier Dimitri Payet.
Cette première journée n'est pas définitive, mais bien évidemment elle vous met sur les bons rails si vous arrivez à prendre 3 points ou à l'extérieur si vous arrivez déjà à ne pas perdre, c'est déjà un point de prix, mais bien évidemment dans un championnat à 6 matchs, il faut vite prendre des points pour pouvoir être plus tranquille pour la suite de la compétition.
Et oui, de l'ambition dans les rangs marseillais pour effacer le passé. Et Thomas de Saint-Léger était justement l'homme qui a écouté notamment Dimitri Payet. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Merci d'être en direct avec nous. Alors Thomas, leur saison en championnat a plutôt bien commencé pour les Marseillais et on a l'impression que ça leur donne quand même de l'entrain et des forces pour ce soir.
Oui, c'est un peu ce qu'il disait d'ailleurs Dimitri Payet hier. Les feux sont au vert avant ce rendez-vous européen. Après, vous avez rappelé les récents échecs marseillais sur la scène continentale et on sent que ça trotte quand même un petit peu dans les têtes. Pas d'Igor Tudor hein, qui n'était pas là à l'époque, pas d'une bonne partie des joueurs. Mais Dimitri Payet, lui, c'est vrai qu'il en parle encore. Il dit qu'il faut tourner la page. Il dit aussi que ce groupe cette année a quand même un petit peu plus d'expérience avec des recrutements de joueurs qui sont habitués à ces joutes européennes. Mais en même temps, il disait dans un extrait, je crois qu'on avait diffusé hier soir, Annie, il disait qu'il préparait le terrain, entre guillemets, au cas où ça tournait mal. Il disait, bon, au pire, une troisième place, c'est pas si grave, on serait reversé en Ligue Europa. Donc on avance masqué un petit peu côté marseillais, prudent. Même si on sent quand même que, voilà, même ce soir, on va essayer d'aller chercher un résultat. Ça, ils le disent tous, de faire jeu égal avec Tottenham qui, il faut le rappeler, puis on en parlera sans doute aussi plus tard, a également réussi un très très bon début de saison en championnat d'Angleterre.
En tout cas, Igor Tudor, hein, l'entraîneur croate de cette équipe de Marseille, qu'on connaît pas trop bien parce qu'on l'a vu de loin et c'était à l'époque en Italie. Il semble être à la hauteur des ambitions de l'OM, en tout cas en Ligue 1, mais son expérience en Ligue des Champions, c'est très simple, zéro match. Et son homologue sur le banc d'en face, l'Italien Antonio Conte, les deux hommes se connaissent bien justement, ils se sont croisés en Italie, et bien Conte lui a souhaité good luck.
Igor Tudor est un ami. Nous avons joué ensemble à la Juventus pendant de nombreuses années, vous savez. C'est vraiment quelqu'un de bien. Je suis heureux de le voir sur le banc d'un club important en Europe comme celui de l'Olympique de Marseille. Il a été très bon la saison dernière à Vérone. Il fait un travail formidable. Son équipe a une idée très claire du jeu qu'elle doit produire. Et je lui souhaite évidemment le meilleur à Marseille, sauf pour ses deux prochaines rencontres face à nous.
Oui, évidemment, il ne faut pas non plus exagérer. Antonio Conte, déjà 34 matchs en Ligue des Champions. Igor Tudor n'est d'ailleurs pas resté de marbre à ses encouragements, Thomas.
Oui, il y a eu un échange d'amabilité de bon aloi entre effectivement ces deux hommes qui se connaissent bien. Igor Tudor qui a rappelé que quand il est arrivé au début des années 2000 à la Juventus Turin, autour des années 2000 en tout cas à la Juventus Turin en tant que joueur, évidemment, il avait été accueilli entre guillemets dans le vestiaire par des joueurs qui étaient un petit peu les légendes locales, les Montero, Del Piero. Et Conte, il disait hier que Conte lui avait servi en quelque sorte d'exemple, de guide, que c'est quelqu'un qu'on écoute parler, qu'on regarde, qu'on observe. Et d'ailleurs, Conte, il l'a rappelé aussi hier, Igor Tudor, lui avait permis, une fois que les deux hommes se sont lancés dans la carrière d'entraîneur, d'assister à une semaine de préparation de la Juventus Turin. Et il racontait, Igor Tudor, que ça lui avait beaucoup servi à l'époque. Et on sent qu'ils se connaissent bien. À la question, pourquoi ne vous êtes-vous pas entraîné à Tottenham? Les Marseillais, hier, se sont entraînés chez eux dans la matinée. Igor Tudor a eu ce petit trait d'humour. Il a expliqué que s'il s'était entraîné sur la pelouse de, non pas de White Hart Lane, mais du nouveau stade de Tottenham, il aurait eu quelque part les yeux ou les jumelles d'Antonio Conte, le roublard, pour l'observer et pour observer sa mise en place.
Ouais, dans le style Bielsa, hein, on se souvient de l'histoire de Leeds. Carlos, je m'adresse à l'entraîneur que vous êtes. Est-ce que c'est un handicap, selon vous, qu'un entraîneur arrive dans la compétition européenne et se retrouve quand même avec une plutôt grande écurie européenne et il n'a jamais disputé la compétition?
Non.
Comme Tudor?
Non, non, pas non. Du tout. Moi, je ne crois pas.
Au contraire?
Parce que lui, comme joueur, déjà, il a connu la compétition. Ouais. Comme joueur, il jouait à la Juventus. Juventus, il participait à tous les ans à la Champions. Alors non, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Il a passé par tous les états d'âme. Je suis sûr qu'il est tranquille, mais par contre, quand je vois la formation de Marseille, je pense qu'il va au 0-0. Je ne sais pas s'il va jouer vraiment à l'attaque, même si Conte, il a un jeu qu'il préfère plus être dominé pour te battre. C'est un Italien, il ne faut pas oublier.
Ouais. Et alors, le réflexe.
Mais la formation de l'équipe de Marseille, moi, je pense qu'elle n'est pas très offensive, mais quand même, peut-être qu'il joue à avoir le contrôle du ballon et essayer de gagner quand même, parce qu'il n'y a pas un point là, vraiment Suarez, c'est un bon attaquant, mais...
Alexis Sanchez suspendu. Hein.
En plus,
c'est
oui.
ce qu'il faut Alexis avoir à l'esprit.
Sanchez, c'est exactement. Parce que le joueur qui est le plus en forme de l'équipe.
Oui. Hein. Ah, oui. Ça serait un bon point pour les Marseillais de justement ramener un point du nul, selon vous,
Bien sûr.
Bruno.
Bien sûr, parce que Tottenham, avec tout le respect pour le Sporting et pour Francfort, c'est le favori du groupe. C'est un club anglais qui a des moyens, qui a un entraîneur qui est pour moi un des tout meilleurs entraîneurs du monde. Qui a un attaquant Harry Kane, qui est l'un des tout meilleurs attaquants du monde, qui a été un effectif qui a été étoffé avec l'arrivée de Richarlison, avec Perisic qui a de l'expérience aussi. Après, c'est pas une équipe ébouriffante hein, depuis le début de la saison. C'est une équipe pragmatique, efficace, un peu à l'image d'Antonio Conte. C'est une équipe qui est dure à battre. Même quand elle est dominée, quand elle souffre, on l'avait vu à Stamford Bridge contre Chelsea, ils avaient pris une leçon de football par l'équipe de Thomas Tuchel. Et à chaque fois, ils avaient réussi à revenir, à égaliser, à revenir à deux partout. Maintenant, l'OM est dans ses petits souliers, mais moi, je regarde ce qui s'est passé hier soir. Le Dynamo Zagreb avait gagné qu'un seul de ses 18 matchs de Ligue des Champions. Un seul. Ils ont battu Chelsea.
Ouais, mais ils viennent des qualifs aussi, donc ça leur a donné un peu de poil de la bête.
Pour moi, l'expérience en Ligue des Champions, par exemple, l'expérience de l'entraîneur, par exemple, on parle d'expérience, le peu d'expérience de Tudor. Je vais te citer un exemple. Roberto Di Matteo avait entraîné aucun club en Ligue des Champions avant de remporter la Ligue des Champions avec Chelsea. Il avait battu Pep Guardiola et le Barça fantastique de l'époque. Pour moi, c'est un match et je trouve que le jeu de Tudor peut faire quelque chose de bien sur ce match.
David Lortolari, vous aussi, sur le Tudor et finalement ce qu'il peut présenter ce soir, ça peut tenir la route parce qu'on rappelle, hein, Marseille, deuxième du championnat de France, automatiquement qualifié en Ligue des Champions et qui, durant l'été, change l'entraîneur et change pratiquement tout l'effectif.
Y a un argument, si on veut prolonger ce que disait Bruno à l'instant, l'exemple du Dynamo Zagreb, dans un contexte certes très différent, le Shakhtar Donetsk qui va s'imposer hier à l'extérieur avec, encore une fois, un contexte différent, mais un entraîneur nouveau là aussi. Sans forcément d'expérience de cette compétition-là et qui a maîtrisé son affaire de bout en bout. Donc sur l'histoire de l'expérience, je suis d'accord avec nos deux amis sur le plateau, mais je suis content que Carlos soit là, Annie, parce que pour moi, c'est un mystère d'imaginer avant le match qu'une équipe qui a un entraîneur plus expérimenté, qui a des joueurs plus expérimentés en moyenne ce soir au coup d'envoi, qui a des vedettes... On peut mettre des guillemets si on veut autour de ça. Hugo Lloris, Harry Kane, Perisic, c'est quand même des joueurs qui ont du chemin. Une équipe en face à qui il manque, on le disait aussi, son atout numéro un en attaque actuellement, la suspension d'Alexis Sanchez. Carlos, comment l'Olympique de Marseille pourrait faire pour marquer un but de plus que Tottenham ce soir? Pour moi, c'est un mystère.
D'abord, essayez de ne pas perdre.
C'est une partie de la réponse, effectivement. Ouais.
Il faut garder, tu vois, Tottenham. Et c'est comme il a dit, que c'est le candidat du groupe. Et alors, il faut avoir du respect. Mais je pense quand même qu'ils sont des bons joueurs pour garder le ballon. Mais je ne le vois pas à Marseille faire un jeu très offensif.
C'est bien mon avis.
La question, c'est qu'il y a des fois que tu arrives à la 90e minute avec un 0-0, mais des fois, il faut voir s'il arrive à encaisser un but, s'il change la mentalité. Parce que quand tu prépares une équipe... pour aller jouer au 0-0, c'est difficile de les faire changer la mentalité au cours du match.
Thomas de Saint-Léger, cette équipe justement de Marseille, pas très offensive. Dès hier, vous disiez, et c'est vraisemblable, que Dimitri Payet ne jouera pas le début du match. Et en plus, donc, on le rappelait, Alexis Sanchez ne sera pas là. Et la pointe, si on peut dire ça, c'est un autre Sud-Américain, c'est le Colombien Luis Suarez. Qui n'est pas l'Uruguayen ex-Barcelone.
C'est pas vraiment le même pédigré d'ailleurs. Luis Suarez, le Colombien, il a 8 matchs de Coupe d'Europe, en Ligue Europa avec Grenade à l'époque, il a marqué 2 buts. Ce seront ses débuts probablement ce soir en Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'il a montré des choses plutôt intéressantes depuis le début de saison. Il avait marqué un doublé pour le premier match, le match d'ouverture face à Reims. Ensuite, il est surtout entré en jeu. C'est plutôt une doublure dans l'esprit de son entraîneur. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'autre solution ce soir. Dimitri Payet n'est pas totalement, semble-t-il, à 100% physiquement, même si lui, en conférence de presse, disait que oui. On l'a dit, Alexis Sanchez est blessé. Voilà, il n'y a pas 40 000 solutions sur le banc marseillais. Il aurait pu avoir Bemba Dieng, mais allez savoir où il se trouve. En tout cas, il n'est pas dans le groupe de l'OM. Je crois qu'il n'est même pas dans la liste UEFA comme Bakambu d'ailleurs. Donc voilà, il va falloir faire avec les moyens du bord côté marseillais, mais c'est un petit peu l'idée. J'ai écouté la discussion de tenir jusqu'au bout, pourquoi pas de surprendre sur la fin Tottenham. Je trouve que Tottenham, dans le discours de son entraîneur, dans aussi ce qu'on peut lire dans la presse anglaise, du côté anglais, on parle pas vraiment de Marseille finalement sur ce match. La conférence de presse hier, elle a tourné sur le rythme très compliqué en ce moment pour Tottenham, avec trois matchs en six jours, un enchaînement très compliqué. Antonio Conte s'en est plein. Il y a eu d'autres thèmes à aborder, mais assez peu finalement sur le jeu de Marseille, l'opposition, est-ce qu'il faut craindre ou non tel ou tel joueur. On a l'impression qu'ils ne connaissent pas vraiment cette équipe, même si Hugo Lloris lui disait oui, attention, on a quand même analysé à la vidéo, on a vu qu'ils ont fait un bon début de saison, que c'est une équipe solide, qui est pragmatique aussi. J'ai plutôt l'impression qu'on va se diriger vers un choc, si vous voulez, entre deux modèles qui se ressemblent. On peut continuer le parallélisme d'ailleurs entre Tudor et Conte, c'est un petit peu la même école, à peu près la même, en tout cas le même système de jeu des 3-4-3, je pense qu'on pourrait se diriger vers un match assez fermé, et si l'OM tient, pourquoi pas surprendre les Spurs en fin de rencontre.
Bruno, Hugo Lloris, le niçois, lui, il connaît l'OM.
Oui, bien sûr. Ah. Non, mais je vais rassurer Thomas, les médias anglais s'intéressent rarement aux adversaires des clubs anglais.
Il y a suffisamment à dire sur l'île.
Non pas que ça ne les intéresse pas, mais ils sont là pour vendre du papier. Et oui. Les clubs anglais sont toujours prioritaires. Mais bien sûr qu'ils connaissent l'OM, parce que l'OM, c'est une des plus belles ambiances d'Europe. Ils sont attentifs, évidemment. Il y a pas mal d'anciens pensionnaires de la Première Ligue, Dimitri Payet, pas mal d'anciens Gunners, Guendouzi, Nuno Tavares, Kolasinac. Donc, qui arrive en plus des anciens Gunners dans le stade de Tottenham, donc l'ennemi historique. Donc, bien sûr qu'ils vont suivre ça.
Mais les Marseillais n'ont pas une trop belle histoire avec les clubs anglais en plus. Hein.
Non, c'est vrai. Mais ils n'ont jamais joué Tottenham, donc ils peuvent écrire une nouvelle
grande
histoire.
Première. Hein. Ouais. Grande première. Ces Spurs, en tout cas, ils jouent dans un très beau stade à domicile, stade assez récent. Et c'est un stade de 62 000 places où devraient résonner donc, notamment des chants des ultramarseillais. Mais Dimitri Payet est déjà impressionné.
Je pense qu'aujourd'hui, ils ont un facteur en plus qui est leur stade, qui était encore, moi quand j'étais là, encore tout petit, on va dire. Là, il a quasiment triplé, donc je pense que c'est un paramètre qu'il faudra prendre en compte aussi. Ça me rappelle plus un peu le mur de Dortmund, là, leur tribune derrière le but. Quand on arrive, vu de l'extérieur et encore plus de l'intérieur, il y a une excitation qui se met en place, une impatience. Ça fait partie aussi du charme de cette compétition.
Bruno, ce stade, vous ne l'avez pas encore testé. Vous étiez déjà parti de Londres.
Non, moi j'étais nostalgique parce que moi j'adorais le stade d'avant, White Hart Lane.
On aime souvent les anciens.
Mais en tout cas, en Angleterre, ce nouveau stade, c'est un bijou. Franchement, c'est un outil de travail extraordinaire. Ils ont fait un stade magnifique. Pour beaucoup, c'est le plus beau d'Angleterre, le plus moderne évidemment. Mais c'est surtout le stade qui fait le plus de bruit en Angleterre. Il paraît qu'il y a une acoustique et un son extraordinaire qui monte des tribunes, bien plus par exemple qu'à Anfield, qui est magnifique, qui est romantique et tout ce qu'on veut. Mais ça sera une ambiance, je pense, intéressante, même si les clubs anglais en Ligue des Champions, c'est toujours un peu particulier. On boude toujours un peu l'Europe, c'est toujours un peu l'Angleterre. Quoi.
Bon, Thomas, c'est beau programme alors pour vous ce soir.
Oui, beau programme. C'est vrai que j'ai hâte de découvrir cette ambiance, mais de l'extérieur, je trouve ce stade.
Il y a un poster.
Ben, surtout, en fait, ça ressemble un petit peu à tous ces nouveaux complexes. C'est-à-dire qu'il y a un stade et puis autour, il y a quasiment un centre commercial, un cinéma. Là, j'en sais rien, j'exagère peut-être, mais un parking. Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir devant vous un stade. Vous avez l'impression d'avoir devant vous un très grand complexe. Mais on distingue pas comme le Parc des Princes qu'on distingue de très loin, comme plein d'autres stades un peu plus anciens. On n'a pas l'impression de mettre les pieds dans un stade. Après, tout le monde en parle de ce nouveau stade de Tottenham, de l'acoustique, comme l'a répété Bruno. Donc c'est vrai qu'on a hâte d'y être, on a hâte d'entendre et on espère entendre aussi les supporters marseillais. 1500, vous avez dit tout à l'heure, il y en aura un petit peu particulier dans les tribunes. Il doit être là normalement. C'est Joey Barton, un Anglais qui supporte l'OM après y être passé une saison. Il avait Il a un bon souvenir, visiblement, de son passage à Marseille. Il a promis qu'il serait là si je le croise et on fera une petite interview avec lui, sans doute.
Oui, il parlait un peu français, je crois, à la fin de son séjour. Bref, certes, mais un séjour un peu marquant. Merci beaucoup, Thomas de Saint-Léger. Puis alors, on vous retrouve en sortie de match et espérons que ça va vibrer du côté de Tottenham. Coup d'envoi donc 21h et nous, Radio Foot, nous reviendrons à 21h10, temps universel, 23h10 en direct. Merci Thomas, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Jeder spielt den Ball tief, hey, aber du hast die beste Idee. Ja, die klappt auch riesig. Hier könnt ihr hinterherlaufen.
Et un autre entraîneur a mordu la poussière. Thomas Tuchel n'est donc plus à la tête des Blues au lendemain d'une défaite, une courte défaite pour un premier match en Ligue des Champions. C'était à Zagreb, donc perdu 1-0 face au Dynamo. L'entraîneur allemand de Chelsea a été viré. Je crois que le mot est juste par le nouveau dirigeant du club, l'américain Todd Boehly. Voici ses derniers propos. On les a, c'était hier soir, après le match, et il n'était évidemment pas très heureux du résultat.
Je suis en colère contre moi-même, en colère après cette énorme contre-performance collective. Nous avons manqué de précision, nous n'avons pas été assez cliniques, nous avons manqué d'agressivité et de détermination. C'est insuffisant sur le plan individuel et sur le plan collectif, et cela explique la défaite. Je ne l'ai pas vu venir. De toute évidence, je n'étais pas dans le bon film. Je pensais que le dernier match de championnat nous avait aidés. Nous avions bien réagi à un moment très compliqué face à West Ham et obtenu un bon résultat, avec un peu de chance dans les moments où vous en avez besoin. Les séances d'entraînement étaient bonnes, je pensais que l'équipe était prête, que nous savions à quoi nous attendre. Franchement, non, je ne m'attendais pas à ce résultat.
Il ne s'attendait pas à ce résultat. Est-ce qu'il s'attendait à être viré dès ce jour, Bruno, selon vous ?
Lui, je ne sais pas. Nous, ça a été une surprise, un choc, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Pas si tôt dans la saison.
Voilà, sixième journée de championnat.
On est le 7 septembre, il n'y a rien de grave. En championnat, ils n'ont pas fait un bon début de saison, mais c'est rattrapable. En Ligue des Champions, ils perdent le premier match.
Il y a six matchs.
Ils sont dans un groupe qui est abordable. Par contre, est-ce qu'il est surpris, lui ? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des tensions depuis cet été. Il faut rappeler quand même que Thomas Tuchel a vécu 7 mois très compliqués à Chelsea. Il y a eu le départ de Roman Abramovich avec l'histoire de la guerre, le processus de rachat, l'arrivée d'un nouveau propriétaire américain. Beaucoup de départs au sein du club, le départ du président, Bruce Buck était là depuis une éternité, Marina Granovskaya, directrice générale, qui était l'un des piliers de la réussite du club, Peter Cech, qui jouait le rôle de la... qui gérait au quotidien le sportif entre Thomas Tuchel et les hautes sphères. Et ça fait beaucoup, beaucoup de départs en peu de temps, sans que Thomas Tuchel ait été affecté. Et cet été, il y a eu pas mal de tensions durant la tournée américaine de préparation, où Tuchel expliquait qu'il gérait des choses qu'un entraîneur ne devrait pas gérer. Il avait trop de responsabilités.
On se souvient qu'à un moment, il s'était proposé pour conduire un minibus. Ouais, hein, on se souvient. Alors, c'était dans tous les problèmes d'argent qu'avait à ce moment-là.
Oui,
et
ça, c'était la fin de saison. Mais cet été, c'était vraiment par rapport au fait que Boehly s'est un peu improvisé directeur sportif du club. Il est propriétaire. Alors qu'il n'a jamais travaillé dans le foot avant. Le recrutement a été un peu tardif au goût de Thomas Tuchel, alors qu'il a été plutôt gâté.
Oui, Aubameyang est arrivé la semaine dernière.
Près de 300 millions d'euros d'investis. Mm-hmm. Et puis, il y a le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est un peu cassé à Chelsea. Thomas Tuchel a fait 100 matchs. Il y a eu les 50 premiers matchs.
C'était le 100e hier.
Où il gagne la Ligue des Champions, il gagne les champions du monde avec Chelsea. Il fait, je crois, 6 finales dans 8 compétitions possibles. Enfin, il a un bilan assez extraordinaire à Chelsea en l'espace de quoi de un peu moins de 2 ans. Et les 50 matchs suivants, ça a commencé à se fissurer. Ils prennent plus de buts. Mendy est moins souverain. N'Golo Kanté est souvent blessé. Il n'y a pas un style de jeu reconnaissable.
Il est parti Rudiger.
Rudiger est parti. Non, mais ça il s'est passé beaucoup de choses et on a l'impression que Thomas Tuchel a un peu perdu le fil de son équipe malgré tout.
Donc pour vous, on a plutôt viré l'homme ou on a plutôt viré le responsable d'une équipe ?
un peu des deux, parce que Thomas Tuchel, c'est plus qu'un entraîneur, il a un caractère à part. Mais dans l'idée de ce qui ressort, en tout cas, de ce qu'on apprend autour du club, c'est que Todd Boehly, il veut construire sur le moyen et long terme.
Et il voulait faire table rase du passé, c'est-à-dire les gens d'Abramovic.
Il a fait un coup de balai extraordinaire.
Bon, là, il vient de dire qu'il y a une demi-douzaine de personnes très importantes qui sont parties. Mm-hmm. Ça veut dire que lui, il veut faire son club à sa façon.
Ce qu'on peut comprendre,
il est le propriétaire.
Ce qu'on peut comprendre, parce qu'il a mis 5 milliards d'euros sur la table pour acheter le club, faire un club à son image. Après, moi, je trouve que c'est il y a une impatience et une brutalité dans la décision de virer Thomas Tuchel qui est incroyable.
David Ortolari, vous connaissez bien le personnage, on l'a souvent suivi, on a beaucoup parlé de lui et c'est la troisième fois qu'il est viré d'un club. Avec Mayence, il était parti, le club de ses débuts, on va dire à l'amiable, c'est là où il avait débuté comme joueur, ensuite comme entraîneur. Mais ça se passe mal, même s'il ne part pas avant la fin de son mandat à Dortmund. On se souvient, alors là, Leonardo lui avait fait passer un Noël horrible, comme il avait dit, le vire un soir juste avant Noël. Et puis là, il est viré. Est-ce que c'est le destin de Tuchel d'être viré de cette façon peu de temps après ?
Je serais très prudent, Annie, sur les comparaisons d'un club à l'autre, même s'il semble y avoir effectivement cette espèce de déterminisme avec un Tuchel qui doit être sans doute très perfectionniste, très exigeant. Il l'a dit dans le court son qu'on a écouté là, il était très déçu de lui-même aussi. Alors c'est une façon, entre guillemets, peut-être de protéger un peu diplomatiquement ses joueurs, mais il est très exigeant vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, les histoires, au bout d'une saison, deux saisons, trois saisons, ça casse. Il y a de la casse avec les dirigeants, avec les joueurs, avec lui-même peut-être aussi. Et de ce point de vue-là, je vois le parallèle. Mais sur cette affaire Chelsea, il faut reprendre le contexte, et Bruno l'a bien expliqué. Même avant, avec Abramovic, qui avait fait, je crois, 20 saisons avec Chelsea, il avait usé 15 entraîneurs. J'ai ce chiffre à l'esprit. Lorsque Boehly est arrivé, me semble-t-il, Bruno, peut-être je parle sous ton contrôle, mais le nouveau patron a proposé à Tuchel un poste plus élargi, avec une direction sportive, avec quelque chose comme ça, que l'entraîneur n'a pas...
Qu'il a vraiment proposé, c'est qu'il n'a pas eu le choix, parce qu'il n'y avait pas de directeur sportif, il a viré Granovskaya et Peter Cech, il était le seul à la tête du sportif.
Mais pour quelle raison il les a virés ?
C'est ce qu'on disait, je pense qu'il a voulu faire table rase du passé, balayer un peu tout ce qu'était l'ancien monde, l'ancien régime.
À la sixième journée du championnat, c'est étrange.
Mais c'est ça la question qu'on se pose, c'est pourquoi ne pas l'avoir viré finalement cet été parce qu'il voulait mettre
Il le fait maintenant.
C'est en décalage. Mercato est passé.
Il me semble que tu parlais de 300 millions, c'est 280-300 millions d'euros d'investissement. Chelsea n'avait jamais investi autant sur un mercato.
Même si on se souvient que pour Lampard, on a l'impression un peu du même film. Il recrute énormément l'été, il dépense énormément. Et à Noël, les résultats ne sont pas là, il le vire.
Parce que l'été d'avant, ils avaient été interdits de recrutement, donc ils avaient dépensé zéro, donc là, ils voulaient...
Oui, mais le truc, c'est que c'est comme dans le discours médiatique en général, nous avons aussi nos torts. Nous, il y a des mots qui sont inconsciemment positifs ou négatifs. Là, on se dit, des recrues, c'est forcément positif. Mais Tuchel n'avait pas forcément envie de repartir avec plein de nouveaux joueurs. Peut-être qu'Aubameyang a passé son apogée. Peut-être que certaines des recrues ne lui donnaient pas satisfaction. Et peut-être que
la table rase...
Peut-être qu'il y avait, sur le plan sportif, il a perdu aussi la magie qu'il avait pu créer précédemment avec les titres qu'il a accumulés.
Alors, il a une aura pour ce qui est de la tactique. Il a une aura aussi pour ce qui est quand même de meneur d'hommes. Mais Carlos, vous qui êtes un ancien entraîneur, comment vous voyez le fait qu'on le remercie comme ça dans les faits au lendemain d'un match qu'il ne perd que 1-0, on va dire.
Oui, mais
c'est pas un truc dramatique.
Non, pour moi, je pense qu'il avait à travers la gorge. Il faut être carrément correct et honnête. Moi, je pense que le propriétaire, quand il arrivait, il dit je vais virer tout le monde, on va recommencer.
Il n'avait pas trouvé le bon moment avant. C'est ça?
Oui, c'était ça, parce qu'en plus, il n'a pas eu de défaite en championnat, exactement, même si ça ne tournait pas tellement, disons. Mais
c'était pas dramatique encore.
C'est pas dramatique, il manque encore toute l'année.
Et vous pensez qu'il aurait, théoriquement...
La question, c'est qu'il faut voir...
Il aurait dû le garder?
Non, la question, c'est savoir s'ils vont trouver un entraîneur facilement.
Il y en a sur le marché.
Là, il y a 3-4 mecs qui sont commencés à parler, tous les journalistes. Ouais. Mais il faut parler. Mais la question est, si lui, il a déjà vraiment...
Dans l'idée.
Avec un programme.
Visiblement, oui. Carlos, je vais te dire, visiblement, oui. parce qu'il y a déjà deux noms qui se dégagent très rapidement. Le premier, c'est Mauricio Pochettino, parce qu'il est libre, justement.
Et qu'il a déjà été l'entraîneur
de
Tottenham.
Et qu'il a déjà travaillé en première ligue à Tottenham, à Southampton. Donc, il connaît parfaitement la première ligue. Et l'autre, c'est Graham Potter, l'entraîneur, l'actuel entraîneur de Brighton, qui est un peu le nouvel entraîneur anglais qui est en vogue, qui fait un travail remarquable à Brighton. Est-ce qu'il a la stature? C'est une autre question. Mais c'est surtout que le club de Brighton a autorisé Todd Boehly et Chelsea à discuter avec Graham Potter pour éventuellement prendre les dossiers.
Ils se sont donné l'autorisation.
Donc il va hyper vite, Todd Boehly. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le football, moi je trouve qu'il va hyper vite, aussi bien dans le recrutement que dans aller chercher le futur entraîneur.
Mais sûr que il a investi combien? 5 milliards?
5 milliards, près de 5 milliards, oui.
Et tu m'as dit qu'il a viré une demi-personne et il ne les a pas remplacés.
Pas encore,
je
non.
Dis, je ne comprends pas, parce que pour avoir 5 milliards, il faut être un mec intelligent.
Attention, il est entouré. Hein. Dans le consortium qu'il dirige, il est bien entouré.
Il doit être bien conseillé.
Ouais, ouais,
Carlos,
ouais.
Pour vous, ça fait partie des bons entraîneurs du moment, Thomas Tuchel?
Pour moi, oui. Mais bien sûr, il l'a démontré, même à Paris Saint-Germain, parce qu'à Paris Saint-Germain, il l'a amené à la finale.
Exactement,
il
en 2020.
Il faut pas oublier ça. Et il a tombé contre une très bonne équipe en face, mais il a fait de très bonnes saisons. Pour moi, je ne le connais pas. Une fois, je le croisais, je lui ai dit bonjour, 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 bonsoir. C'est tout. Mais la question, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de respect pour la profession. On n'a pas de respect pour l'entraîneur.
Qui vient de gagner la Ligue des Champions, hein, Carlos, récemment.
Écoute,
hein.
Oui, mais l'avant-dernière.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au monde qui l'a fait autant depuis janvier 2021 à ces jours-ci. Il n'y a pas un au monde qui l'a fait autant. Alors, je ne comprends pas. Je dis, c'est la riche, tu changes les voitures tous les jours.
Une petite question quand même, David Lortolari. Malheureusement, ce n'est pas le seul qui a été emporté dans ce flot des contre-performances. Il y a l'entraîneur du RB Leipzig qui lui aussi a été viré, Domenico Tedesco. Hein.
Oui.
Ils sont sans cœur aussi. Comme l'Américain, les dirigeants de Red Bull.
Je vois des parallèles aussi dans les parcours, puisque Tedesco, chaque fois qu'il arrive dans un club, c'est génial. Il a gagné la coupe avec le RB Leipzig, ce que le club n'avait jamais fait par définition, puisqu'il débarque à ce niveau-là de la compétition et ils viennent de gagner une coupe. Premier trophée, donc Tedesco, un héros, il y a quelques mois. Hein.
Que Leipzig n'avait jamais gagné.
Bien sûr. Et il avait par ailleurs avant amené Schalke dans son club précédent, avant qu'il n'aille au Spartak Moscou. Ça, c'est une ironie d'ailleurs de la soirée d'hier. Ancien entraîneur du Spartak Moscou, battu sèchement par Donetsk. Ça, c'est un autre contexte. Mais il avait.
Un contexte géopolitique.
Il avait été entraîneur de Schalke, qu'il avait mené à la deuxième place du classement en Bundesliga. Ni Schalke, quand il est parti, est descendu en deuxième division. Donc là aussi, un parallèle avec un entraîneur qui fait de très belles choses avec son club. Là, ça ressemblait à rien. L'équipe est sans idée, l'équipe n'a pas de mouvement, donc il fallait faire quelque chose. Ça, je veux bien le concevoir. Mais il y a des parallèles avec Tuchel. Quelques matchs de championnat, un échec en Coupe d'Europe, et hop, on change d'entraîneur.
Je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur deux rencontres ce soir et vous allez comprendre pourquoi. Elles ont un lien qui concerne deux clubs, le Bayern Munich et Liverpool. Le Bayern Munich de Sadio Mané et Liverpool sans Sadio Mané. Alors, pour ce qui est du Bayern Munich, David Lortolari, ils joueront ce soir à Milan face à l'Inter.
Oui.
Et l'Inter, qui tremble peut-être, en tout cas c'est ce que nous dit Matteo Cioffi, ils ont un petit peu peur de perdre. Et alors voilà qu'en plus, ils ont titularisé dans leur cage, et pour la première fois, le Camerounais. Alors, Sadio Mané le connaît indirectement, et c'est André Onana, oui. L'ancien de l'Ajax qu'ils avaient recruté et qui ne jouait pas pour l'instant.
Alors, je suis un peu tiraillé entre deux sentiments, parce que d'une part, l'Inter a réussi parfois de belles choses contre le Bayern dans les saisons passées. On se souvient à Munich, et on l'a encore en travers de la gorge, d'une défaite en Ligue des Champions en 2010, l'Inter de Diego Milito, et ça avait été un mauvais souvenir pour les Bavarois. Donc, c'est attention à l'Inter toujours en Bavière. Mais de l'autre côté, pour commenter aussi la Serie A désormais régulièrement pour des confrères, actuellement, sur le plan sportif, la compétitivité est plus forte côté Bayern Munich que côté Inter, même côté des deux Milan, en fait. Hein. On a vu le Milan assez hier soir, difficile contre Salzbourg. Et on peut imaginer que sportivement, même si Lewandowski est parti, le Bayern est effectivement un avantage. Mais ça sera à Milan, Annie, donc. Intéressant.
Oui, évidemment. Pour vous, la question, parlez-nous un petit peu de ce match, c'est Liverpool qui n'a pas super bien commencé le championnat, non. Mais Klopp est toujours là, apparemment. Lui, il est sur son siège.
Jusqu'aux dernières nouvelles, oui.
Il est fatigué un peu, non, Bruno? Non, il me semble, non?
Non, non, non.
C'est pas sa meilleure saison pour l'instant.
Envoyé à Naples, il est parti à Naples, évidemment, pour donc rencontrer le Napoli, avec un Victor Osimhen peut-être incertain.
Ouais, Liverpool, il faut qu'ils se reprennent un peu dans leur début de saison. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup, beaucoup de blessés. Il manque encore pas mal de joueurs là, pour ce déplacement. Anderson est forfait, Naby Keita est blessé. Naby Keita, pardon, il n'était même pas enregistré sur la liste Ligue des Champions. La seule bonne nouvelle du côté de Liverpool, c'est le retour de Thiago Alcantara. Et ça, quand on voit le manque, le vide qu'il a laissé dans l'entrejeu de Liverpool depuis sa blessure, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, Liverpool, c'est un club qui a besoin de remettre un peu d'ordre dans son effectif avec ses blessures et pour vraiment lancer sa saison, je ne fais pas vraiment de soucis. Et contrairement à Chelsea, à Liverpool, on sait prôner la patience. Parce que Klopp, il a eu aussi des premières saisons un peu mouvementées. Les dirigeants lui ont fait confiance. Il y avait un projet de jeu et un projet de club. Et on a vu ce que ça a donné. Il a remporté la Ligue des Champions, la première Ligue, la première depuis 30 ans. Donc c'est un club qui travaille bien. C'est pourtant aussi un propriétaire américain. Comme quoi, on peut être américain et aussi être patient. Mais non, mais après, c'est un piège. Ce déplacement à Naples, c'est sans doute le match le plus difficile de leur groupe pour Liverpool.
C'est clairement deux des matchs phares de la soirée avec, évidemment, Tottenham OM. Allez, on continue et on va terminer sur la rencontre qu'il y a eu hier soir au Parc des Princes.
Mon leg est un rêve que m'a transmis mon père, celui dont j'ai regardé plus haut. Le sommet de la tour Eiffel démesuré, j'ai juré de viser plus haut, viser plus haut.
Messi là, qui a réussi son grand pont, Messi qui accélère. Il va pouvoir décaler Mbappé justement. Côté droit, il va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Il y a Neymar qui est tout seul. La frappe de Mbappé, il a voulu y aller tout seul. Et Neymar, il va s'agacer là, parce qu'il était tout seul. Et Mbappé a préféré la solution individuelle. Il a tiré dans...
Et oui, pas de triplé pour Kylian Mbappé, mais quand même un doublé. Cette première victoire en Ligue des Champions pour le PSG cette saison, dans leur jardin. Ils ont donc battu la Juventus 2-1. Ce doublé de Kylian, ce duo aussi retrouvé sans doute Mbappé-Neymar. Ils avaient l'air complices, apparemment heureux d'être ensemble, en tout cas sur la pelouse. Ils se passaient le ballon et tout allait bien. Pourtant, et vous l'avez entendu en deuxième mi-temps, cette équipe elle nous a fait un peu peur. Justement, Cédric, bonjour. Cédric de Oliveira, c'est vous qu'on entendait tout à l'heure, pardon. Oui. Vous étiez au stade hier soir. Elle n'a pas marqué cette équipe à ce moment-là. Après, elle encaisse le but de la Juventus et jusqu'à la fin du match, on a un peu peur pour les Parisiens et je dirais comme avant.
Oui, alors comme avant, c'est peut-être un peu trop fort, mais c'est surtout que bon, en face, la Juventus Turin, c'est pas vraiment le, enfin la baissée de niveau un peu cette Juve, c'est pas non plus un cadre européen, mais c'est vrai que le PSG avait tout bien fait lors de la première période en marquant ses deux buts. Mbappé avait montré son efficacité, sa complémentarité avec Neymar. Après voilà, il y a cette fameuse action où Mbappé peut la donner à Neymar, il lui donne pas. Par un petit péché d'individualisme, il voulait, je pense, inscrire son triplé Kylian Mbappé.
Il voulait le ballon.
Voilà. Après, oui, il y a eu quelques craintes, mais on n'a pas senti non plus la Juventus capable d'aller marquer ce deuxième but. Ou alors vraiment, sur une erreur individuelle des Parisiens, je pense que Paris a surtout gâché quelques occasions. Mais à l'arrivée, ça reste quand même une victoire assez logique. Voilà, ça aurait pu être une victoire un peu plus large, mais rien d'alarmant non plus.
Carlos Bianchi, vous aussi, vous l'avez donc vu ce match des tribunes. Est-ce que vous avez senti aussi une certaine fébrilité en fin de match? Et alors, on parlait les saisons antérieures de ces fantômes qui faisaient que le PSG, qui avait tout pour l'emporter ou tout pour se qualifier, parfois il y avait comme ça une errance, des absences. Est-ce que vous avez eu l'impression de retrouver ça un petit peu hier soir ou pas?
Ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils ne sont pas tués le match. Parce qu'à 2-0, d'abord, à 1-0, je ne comprends pas comment ils n'égalisent pas la Juventus, la tête qu'il met l'avant-centre. Il a 7 mètres pour la mettre au fond, il la met sur le gardien. Ça, c'est toujours pareil. Excusez-moi, c'était mon métier.
7 mètres, c'est large, c'est vrai.
Non, c'était mon métier.
Votre métier, buteur.
Et à 2-0, il peut tuer le match. Mais il ne l'a pas fait. Ils ont raté deux occasions de but. Après, les autres, ils marquent le but. Et ils auraient même pu arriver à la fin, à égaliser, parce qu'ils ont eu deux, trois occasions que le ballon, il a traîné devant les petits 6 mètres, qui s'est baladé à droite et à gauche. Il n'a pas fini au fond, par hasard. Et c'est dommage, parce que quand tu dois tuer le match, les grandes équipes, ils ne te donnent pas la possibilité que tu reviennes. Ils te tuent. Et Paris, il manque ça. Je ne sais pas la raison.
Il manque encore quelque chose.
C'est pour ça, c'est comme quand il est arrivé à la finale de la Champions.
Alors Carlos, on en parlait tout à l'heure tous ensemble avant l'émission. Est-ce que il y a peut-être aussi quelque chose à relancer, et c'est le débat autour de Donnarumma. Alors je pense qu'on ne va pas être tous d'accord autour de la table, mais nos amis du Parisien notamment se disent qu'il n'a pas encore dissipé toutes les discussions, voire certains doutes qu'on a autour de lui. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du gardien?
C'est
alors, sur le but, s'il
n'aurait
il sort.
S'il n'aurait pas encaissé le but non, de la façon sûr. Qu'il a encaissé, que c'est à 100% sa faute, hein, d'accord. Mais des fois, quand c'est sa faute et le gardien, c'est lui qui reçoit le ballon, l'attaquant adverse. Il est pris par un défenseur. Il n'y avait personne qui l'a pris.
Ouais, il s'est mis d'accord en colère, d'ailleurs, Donnarumma.
Il y a des défenseurs à côté de l'attaquant qui lui met la tête tranquillement. C'est sûr que c'est sa faute, complètement. Mais il ne faut pas arriver que lui, il se trompe pour dire oui, c'est bon, il faut mettre un gardien, il faut mettre l'autre. Depuis le moment qu'ils sont mis, ils sont apportés au Paris Saint-Germain de la Roma.
Et que cette saison, il est
ils
numéro 1.
Ils ont dit souvent que tu vas être titulaire. Et alors, bon, ils ont changé d'entraîneur. L'entraîneur, il peut changer aussi que des gardiens.
Ben, il n'a pas
la
changé.
La question, elle est là.
David Lortolari, vous avez écrit un livre, n'est-ce pas, sur les gardiens de
quelle
but.
Quelle histoire, cette
qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport au statut qu'a Donnarumma dans ce club de gardien numéro 1 et en même temps de certains doutes? Alors, évidemment, on se souvient tous de l'année dernière, une faute pas du tout similaire, mais avec Karim Benzema qui avait relancé le Real Madrid en marquant. Comment vous avez vu cette action hier?
Ce poste de gardien, c'est clair, il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Michael Landreau avec l'équipe de France pourrait vous en parler, d'autres aussi qui savaient qu'ils étaient numéro 3, pas forcément pour faire l'ambiance dans l'autobus, mais ils savaient qu'ils étaient numéro 3. On sait aussi qu'on est numéro 2 avec l'ambition d'être bon lorsque le numéro 1 est absent ou failli ou on est amené à le remplacer, mais deux numéros 1. Alors là, cette saison, il n'y a pas deux numéro 1, théoriquement, sauf que ce sont deux gardiens numéro 1, en fait, ces deux-là. Prenez l'exemple du Bayern, Manuel Neuer numéro 1, le numéro 2, Ulreich, un bon gardien qui pourrait être en équipe nationale, qui fait partie des 5-6 meilleurs gardiens de l'équipe nationale, enfin du pays. Il sait dès le départ quel est son rôle. Et il s'acquitte de sa tâche de manière parfaitement claire. Ça ne fait pas une vague, jamais. Et lorsqu'on dit au Bayern, on pourrait faire revenir Nübel, qui est à Monaco, qui est un bon gardien, Neuer dit tout de suite, non. Ça, ce n'est pas possible. C'est exclu. Tant que je serai gardien du club, il n'y aura pas un numéro 1 bis. Il y a peut-être des exceptions dans l'histoire du football, mais ça ne fonctionne pas en général.
Et vous pensez que là, ça reste...
Le poste de gardien de but, il est spécial.
Ouais. Pour l'avancante, Carlos.
Non, mais tu peux un attaquant, tu sais que tu plantes des pions, tu as la réserve, peut-être qu'il...
Oui, c'est vrai.
Ça marche. Mais le gardien de but, c'est incroyable. Mais oui. Je n'ai jamais compris que tu avais un des meilleurs gardiens qu'il y avait en Europe, qui avait gagné 3 coupes, je crois, d'Europe, que c'était Navas.
Oui. Mm-hmm.
Et tu ne peux pas l'amener quelqu'un parce que tu fais une bonne affaire, parce qu'il est libre.
Mais c'est ça.
Alors, moi, quand on se trompe parce qu'on fait une affaire, parce que ça ne coûte rien, et tu amènes quelqu'un qu'à la fin, ça finit pour semer la merde, il faut être sincère et clair. Et c'est difficile, hein. C'est difficile. T'as Navas, tu sais, il peut jouer dans n'importe quelle équipe au monde.
Bien sûr. Mais oui. Dans le Real Madrid.
Il le note entre 5,5 et 6 aujourd'hui, nos confrères dans les journaux, et souligne effectivement. Alors, il a fait un bel arrêt justement quand le.
Oui, il en a fait un deuxième en deuxième mi-temps.
Voilà, exactement.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a de la fébrilité. Sa sortie, elle est manquée sur le but de la Juventus Turin, même si il n'est pas aidé par sa défense. Mais c'est vrai que on n'est jamais très rassuré, notamment quand il y a ces phases de jeu où ils essayent de relancer de derrière. On se rappelle vraiment du fantôme de Benzema avec le Real Madrid. Oui, il y a un problème de gardien avec le PSG. Je pense qu'en fait, le départ de Navas, qui aurait dû partir à Naples, c'est un vrai problème pour la direction du club. Je crois qu'elle n'a pas réussi à... Alors, limite, ça les aurait arrangés, je pense, que Navas s'en aille. Ben voilà, il va falloir composer avec ça pendant au moins quelques mois jusqu'à la trêve. Voilà.
Peut-être une solution qu'on pourrait leur suggérer, mais il faudrait que les deux gardiens s'entendent autour de ça, c'est que, et en l'occurrence, il n'y en aurait un qui serait favorisé par rapport à l'autre. Et chacun joue sa compétition.
Ils ont essayé, mais c'est pas une solution. Avec un match l'un,
ça marche jamais. Moi, j'ai souvenir à Chelsea, il y avait Thibaut Courtois et Peter Cech. Et ça marchait pas. Il y avait de la tension parce que c'est deux numéro 1. Et quand tu as deux numéro 1, numéro 1 bis, bah, ils veulent jouer tous les deux. Et le gardien, ce que disait Carlos et David, c'est un poste pour moi où la confiance est le plus important, plus que le talent. Et on l'a vu, quand cette confiance-là, elle s'effrite, quand il y a quelqu'un qui est dans votre dos et qui ambitionne d'être le titulaire, ben vous êtes sous pression et un gardien qui est sous pression, il est moins bon. Un des exemples en date, pour là où en ce moment, depuis 6 mois, c'est Edouard Mendy, qui a été fantastique avec le Chelsea de Thomas Tuchel. Il est un des grands artisans de la victoire
Champion
des Champions.
Champion d'Europe avec lui.
Et depuis quelques mois, il est moins en confiance, il est moins serein dans ses prises de balles, dans son jeu au pied, il fait des erreurs, il accumule des erreurs. Ben c'est ça, un gardien, c'est la confiance.
Moi, quand je suis arrivé à Boca Juniors, en 98, j'ai 30 secondes pour raconter.
Bien sûr.
J'avais deux gardiens. Un qui avait joué la sélection argentine, qui a joué la Coupe du Monde 2006 à Bondancieri, en Allemagne. Et j'avais Cordoba, qui venait de finir la Coupe du Monde 98 pour la Colombie en France. D'accord. Je prends l'équipe, je le prie tous les deux. Je lui dis, on va travailler jusqu'à ce que ça démarre le championnat. Et après, moi, je décide. D'accord. Une semaine avant, je lui ai dit, Oscar, à Cordoba, c'est toi qui vas jouer. Et Roberto, le jour que lui se blesse, c'est toi qui vas jouer. Sauf s'il est trop mauvais. Mais sinon, c'est le 1 et toi, c'est le 2. Je dirigeais Boca Juniors de 98 à 2001. Je pars de Milan et je reviens en 2003. Cordoba, il était parti au Besiktas, en Istanbul. Je suis revenu, il y avait Abondancieri. Et c'était lui qui était titulaire. Mais ce sont des postes capitaux. Le gardien, il doit aller coucher et se réveiller avec le maillot de numéro 1.
Eh oui,
c'est ça.
Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé, enfin, ce qu'on a vu hier soir, ce que commentent nos confrères et tout, peut relancer ce débat ou pas vraiment, Bruno?
C'est certain. Tant que Navas sera sur le banc à attendre son tour,
à regarder le match,
club,
parce qu'il y a des gros plans sur lui, bien sûr.
Non, mais tant qu'il s'entraîne, ouais, exactement, tant qu'il s'entraînera dans le même vestiaire et à chaque fois qu'il y aura des matchs, on verra son plan, le plan de son visage, de ses réactions.
C'est obligé. La question qui est là, ils sont gagnés. Si un jour tu perds pour une faute à lui, la sortie du stade. Écoute, un des jours que ça m'a fait le plus mal à moi, c'était qu'un jour de Maria avec Emery, l'entraîneur. De Maria, il n'y avait pas fait une bonne.
Di Maria.
Di Maria. Et il manquait 15 minutes pour la fin et l'entraîneur, il le sort. Et je lui dis, il ne peut pas le sortir. Parce qu'il va se bouffer tous les sifflets du stade.
Ah, bien sûr.
Comprends? Et le gardien, c'est pareil. Un jour, il va perdre un match. Ouais. Ça va être sa faute, soit Navas, soit l'autre.
Bah, c'est déjà arrivé, d'ailleurs, avec Donnarumma. Le Real Madrid, on peut considérer... Alors certes, après, c'est une œuvre collective, mais ça part un peu d'une erreur.
Mais tu sais quoi? Real Madrid, c'était là-bas.
Oui.
C'était là-bas. Il y avait 30 Français. Oui, 30 Français. Comprends? C'est pas pareil. Perdre un match à Paris, pour la faute du gardien, ça, c'est difficile.
Bah, on se souvient de Buffon, hein, quand il y avait eu ce match retour terrible avec Manchester, et que malheureusement, alors c'était non plus, c'était évidemment collectif, et c'était une faute, mais au départ, c'est lui qui montre une certaine fébrilité.
J'ai un autre exemple pour vous, Hugo Lloris, super gardien. Quand il arrive à Tottenham, il devrait avoir le statut numéro 1, mais on le met en concurrence... C'était l'Américain Brad Friedel, je crois, à l'époque. Oui. Personne ne comprend qu'ils sont en concurrence avec lui. Et bien, Hugo Lloris, sur ses premiers matchs avec Tottenham, il n'est pas serein. Il ne comprend pas qu'on ne le mette pas titulaire parce qu'il arrive avec un statut, équipe de France. Et c'est invraisemblable. Et ils ont foutu en l'air les premiers mois de cette saison avec Hugo Lloris.
Oui, on se souvient de Casillas aussi. Hein. Ouais, au Real, il y aurait beaucoup d'histoires. Mais c'est déjà la fin de Radio Foot International.
Ça passait vite.
N'est-ce pas, Carlos? Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, messieurs. Et on se retrouve tout à l'heure, donc, après les matchs.